La radio de vos plus beaux souvenirs. 1570 AM Laval.
CJLV 1570 Laval vous présente la seule émission francophone en Amérique du Nord consacrée à la lutte professionnelle. TOW Radio Show. Présentation de Pink Paradise et Oasis Technology. Voici votre animateur, l'arbitre de cette émission, Patrice Maltais.
Bonsoir à tous, bienvenue à ce 24e épisode du TOW Radio Show sur les ondes du 1570 AM, également le 1570.ca. Nous sommes pas mal à la hâte, étant donné que l'émission d'avant a vraiment, vraiment terminé à la toute dernière minute. Salut Pat, pendant que t'es en train de t'installer.
Salut Pat, salut tout le monde.
Le festival du Pat ce soir, gros show. Ce soir, nous faisons le Go Home to WrestleMania, comme on a dit tout à l'heure, hors d'onde.
En espérant que ça soit meilleur que ce que la WWE nous a présenté comme Go Home Show hier.
Sérieux, hein? Quand on parle de déception, je me grattais la tête et puis je me disais, est-ce qu'ils savent vraiment qu'ils ont un gros événement, le plus gros événement de l'année qui se tient en fin de semaine? Est-ce qu'ils sont au courant? Parce qu'hier, j'ai regardé, puis là, quand tu veux perdre des codes d'écoute, bien, tu mets Randy Orton, Kane, Sheamus en commençant ton émission, et puis ça m'a donné le temps d'aller au dépanneur, j'ai même eu le temps de prendre ma douche, tellement que c'était platonique. Et puis je me suis dit, bon, ben au moins, le plat va être derrière nous. Non, ça n'a pas été le cas.
Non, écoute, la WWE, je pense que non seulement on n'aurait pas dit que c'était WrestleMania en fin de semaine, mais on n'aurait pas dit non plus que c'était le Go Home Show de ce qui annonce comme le plus gros WrestleMania de tous les temps, ouais, de l'histoire. Écoute, c'était décevant. Le segment entre The Rock et Cena à la toute fin, je veux dire, moi j'ai regardé ça et ça m'a pas donné le goût d'écouter plus WrestleMania en fin de semaine. Ça m'a pas donné le goût de voir davantage le match entre Rock et Cena. C'est un segment qui était moins fort, j'ai trouvé, que ceux qu'on a vus dans les dernières semaines. Et au lieu, moi, ce qui m'a le plus aberré du segment, c'est que pendant, je sais pas, 10 minutes, 8 minutes, ça m'a paru plus long que ça, remarque, John Cena parle, The Rock est dans le ring, ne fait rien. Exactement. Ensuite, The Rock répond pendant 2 minutes, Cena ne fait rien, je veux dire, vous allez vous battre dans 6 jours. Pouvez-vous avoir au moins l'air de vous détester? Et The Rock, tout ce qu'il a dit, c'est,
ah, ben, je t'aime pas.
Non, oui, c'est ça. Puis Cena, t'es vraiment un super bon lutteur. T'as pris la WWE sur tes épaules dans les dernières années. Je reconnais ça. Je t'aime pas. Mais tu dis même pas pourquoi t'aimes pas John Cena. Écoute.
On va y revenir, Pat. On garde ça en hold parce qu'on va aller au bulletin d'information. Ce soir, Bertrand Hébert, justement, qui vient boucler la boucle sur notre leçon d'histoire concernant tous les WrestleMania. Ce soir, on fait 25, 26 et 27. Et puis, c'était tellement bien timé, notre affaire, que nous allons arriver, justement, pour WrestleMania 28, qui se déroule ce dimanche. On va parler de la carte. J'ai mis un petit sondage sur la page TOW Radio Show sur Facebook, à savoir, vous écoutez comment l'émission, c'est-à-dire, est-ce que vous l'écoutez sur le 1570 AM, soit le 1570.ca, ou bien en différé, comme certains le font le mercredi matin.
Je l'écoute dans mes écouteurs en ce moment.
Ah, ça c'est bon, tu l'écoutes même en direct. Moi, je l'écoute même 3 fois pour me faire une opinion, justement, sur l'émission. Ce soir, on fait une tentative, on va prendre vos appels durant la deuxième heure pour savoir vos prédictions de WrestleMania. Mais avant de faire ça, on s'en va au bulletin d'information. Hop, t'as plus, ça a pas décollé mon affaire. Des affaires qui arrivent. OK, 1, 2, 3, go. C'est parti. Bien, le site de la WWE, c'est-à-dire WWE.com, a annoncé cet après-midi que Ric Flair sera présent lors de la cérémonie du Temple de la renommée de la WWE qui se tiendra à Miami samedi soir au American Airlines Center. The Nature Boy, qui a été intronisé en 2008, entrera pour une deuxième fois dans le Temple de la renommée, pour une deuxième fois qu'on vient de le dire, ce qui constitue un record. Il accompagnera les Four Horsemen, Arn Anderson, Tully Blanchard, Barry Windham, ainsi que J.J. Dillon. Le site ne mentionne pas Pat si Flair fera son apparition sur scène ou bien qu'il sera mentionné comme étant un membre de la TNA. La semaine passée, bien, la nouvelle avait apparu comme quoi que la TNA ne demandait pratiquement rien en retour si ce n'était qu'une simple mention de la compagnie lors de l'événement. Puis ça va sûrement être censuré. Vas-y.
Non, mais écoute, oui, Flair va être là, il va être présent sur stage. C'est juste que les détails de l'entente, la WWE et la TNA n'ont pas encore été dévoilés.
C'est vrai. Il est rapporté que Vince McMahon est très, très, très fébrile, pour ne pas dire en feu, à l'approche de WrestleMania qui se tient en fin de semaine. McMahon a fait plusieurs révisions du script de Raw hier et n'a pas fait changer aucun segment de l'émission. Il y a une source de la compagnie qui indique qu'il est tout simplement énergétique à un point tel qu'il a même pris le temps de s'asseoir et de faire plusieurs rencontres aléatoires avec les talents de la compagnie pour discuter de la direction de leurs histoires, ce qui est contraire à lui. Si vous aimez les statistiques, eh bien, advenant une victoire lors du championnat intercontinental à WrestleMania sur Cody Rhodes, Big Show sera l'une des stars d'élite à avoir remporté tous les titres actifs à la WWE. Il a gagné le titre de la WWE, la World Heavyweight Championship Belt, pendant 45 secondes, le championnat des États-Unis et le titre par équipe. À noter qu'il avait gagné également le titre Hardcore de la WWE, le titre par équipe mondial, parce qu'il y avait deux ceintures par équipe à un moment donné, ainsi que la ceinture de la ECW. L'émission de Raw de cette semaine a attiré 4 443 000 téléspectateurs, ce qui donne une cote d'écoute en moyenne de 3.04. La première heure a eu un pointage de 2.96 et la deuxième heure de 3.12. Selon Dave Matthews du Wrestling Observer, bien la TNA connaît des difficultés financières et les talents, ainsi que les vendeurs de marchandises de la compagnie sont souvent payés pour leurs services sur une base différée. C'est Janice Carter, la maman de la présidente de la TNA, Dixie Carter, qui s'occupe maintenant du cordon boursier de la compagnie. Une minime partie de l'argent recueilli est dépensée aux places prioritaires ces jours-ci. Janice Carter, qui a pris le contrôle financier de la compagnie en 2010 pour freiner les dépenses inutiles de sa fille Dixie, après les énormes pertes financières que la compagnie Panda Energy International était prête à tolérer pour la TNA. Puis en terminant, il y a une photo de Mickey James frappant d'un coup de pied Gail Kim à Genesis, qui est sur la couverture du magazine Inside Wrestling, qui fait jaser. En effet, le magazine critique la direction dont la division Knockout de la TNA. On peut lire en grand titre « Est-ce que la division Knockout est rendue le salon de Gail Kim ainsi que Mickey James? » Qu'est-ce que t'en penses de ça, Pat, cette dernière nouvelle concernant la TNA qui est en dans le rouge?
Ben écoute, te dire que je serais surpris, que je suis surpris, ce serait te mentir. Je veux dire, la TNA a tellement... ils ont eu des bons moments, je m'ennuie de ces moments-là. Ils ont eu des bons moments où c'était le fun à regarder la TNA. La TNA offrait un bien meilleur produit au niveau lutte, offrait un bien meilleur produit aussi au niveau de la lutte féminine, qui était alors bookée par Dutch Mantel. Quand Samoa Joe est arrivé, là, je me rappelle des matchs entre lui et AJ Styles, Christopher Daniels. Quand Kurt Angle est arrivé aussi, ça avait été vraiment, c'était de la bonne lutte qu'on y présentait. Par la suite, bon, écoute, pour des raisons X, Y, Z, que seuls Dixie Carter et Vince Russo connaissent probablement, je pense que Russo a pas aidé au booking. Le booking s'est de plus en plus enlisé. C'était vraiment, là, écoute, puis le produit qu'on a présentement, il n'y a rien au produit de JMI. Il y a peut-être 3, 4, 5 ans de la TNA. Eh bien, écoute, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut que ça paraisse dans les états financiers de la compagnie.
On revient sur la présentation de Raw hier soir. Pat, j'ai pas embarqué tout simplement. J'ai été sur le bout. J'ai bien aimé, par contre, l'émission d'avant Raw sur l'histoire entre John Cena et The Rock. Des trucs qu'on avait déjà vus. J'imagine qu'ils voulaient attirer un nouveau public et puis être sympathique à l'endroit de John Cena. Ses quatre frères, sa maman, ainsi que The Rock, l'enfant prodige de la famille.
Ben, c'est ça le problème. C'est ça le problème, Patrick, je pense. Dans toute cette histoire-là, on essaye de surprotéger John Cena. On veut tellement pas qui soit le heel face à The Rock dimanche, que on le surprotège. Faut que The Rock le vende comme un bon lutteur au moment où ce qui où il devrait pas le faire, au lieu de faire un... écoute, le spécial qu'ils ont fait, oui, c'était bon. Par contre, en même temps, il vend pas plus le match. Non. Je regarde ça puis je me dis pas, hey, tabarnouche, j'ai hâte de le voir parce que les deux ils vont s'entretuer. Puis c'est ça le but d'un spécial de la sorte, c'est de faire en sorte de vouloir voir le match encore plus. Là après le spécial, bon, on connaît plus Cena, on connaît plus The Rock. Si t'as déjà vu le DVD du Rock, même le dernier qui est sorti, t'as vu 90% de ce qu'ils ont présenté là-dedans. Donc, on veut surprotéger Cena. Et l'erreur là-dedans, Patrice, c'est que Cena, peu importe qui, la façon que la WWE essaye de le surprotéger présentement, il va sortir heel. WrestleMania est à Miami. Et la seule et unique façon que Cena redevienne babyface, ou en fait continue à être babyface après Mania, parce que c'est vrai, c'est lui qui reste puis le Rock reste pas, c'est de donner un match exceptionnel où ce que Cena va faire taire ses dénigreurs puis va sortir un match extraordinaire qui va gagner. Puis Cena, dans ces grandes occasions là, a l'habitude de sortir cette performance là. On se rappelle entre autres des matchs, un match de rue qu'il avait eu avec le Big Show, qui avait été vraiment, là, tu t'attendais pas à un bon match, puis ça avait été très, très fort.
C'est vrai.
Donc, je pense que c'est ça que la WWE aurait dû là, complètement se foutre de est-ce que les fans vont le huer, vont l'applaudir. Non. Mettez le meilleur match possible. Faites que Cena paraisse super bien dans le match. Puis, laissez les fans l'aimer pour ce qu'il va donner dans le ring face à The Rock dimanche, et non pas pour tout ce qu'on essaie de lui donner comme avantage dans le build-up.
Pendant l'émission justement qui présentait l'histoire des deux, il suivait John Cena sur la route, et puis il prenait des photos, signait des autographes, et puis il y a un fan qui est arrivé pour faire signer son chandail Cena Sucks.
Mm-hmm.
Le jeune est un petit peu gêné, et puis Cena montrait à la caméra, vous voyez, même les haters m'aiment. C'est les haters qui m'aiment d'abord. Donc il a signé son chandail, il a pris une photo, puis tu voyais que le jeune était un petit peu mal à l'aise. Ça devait être une gageure, je sais pas, mais quand même, j'y lève mon chapeau concernant ce chandail-là. Écoute, il n'y a pas juste le combat entre The Rock et John Cena, malgré que c'est ce qui va vendre le pay-per-view. Mm-hmm. Parce que même nous, on se pose des questions à savoir ça va être quoi le résultat de ce combat-là. On va garder le reste de la carte pour après la pause. Si vous avez des commentaires à faire, nous vous invitons à le faire via la page TOW Radio Show sur Facebook. Également, vous pouvez nous appeler ce soir. Oui. Notre voix, l'autre arcan, comme on peut voir sur notre affiche ici. Je me rappelle jamais de son nom. Est-ce qu'on voit son nom?
Robert Arcand.
Robert.
C'est Bob. Bobby Arcand.
C'est Bob. Ben, c'est sa voix d'ailleurs qu'on entend, cet animateur-là.
Absolument.
Lors de nos jingles. Donc, vous nous appelez au numéro de téléphone qu'on va vous donner pendant qu'on va aller à la pause publicitaire. Oui, Pat?
Oui, ben, écoute, aussi sur la page du TOW Radio Show, je vous propose de nous donner vos prédictions pour The Rock Cena. Qui va gagner? Comment? Ou pourquoi? Ça pourrait être intéressant de vous lire là-dessus. Toi, Patrice?
Moi, on dirait que je prends pour John Cena cette année.
OK.
Je vais prendre pour John Cena, puis je dis tout simplement parce que je sais pas. Je sais pas, je peux pas dire qu'il est meilleur que l'autre parce que ça ferait un petit peu trop Mark. Puis toi, puis les Mark, vous savez que vous allez pas ensemble.
Non, sinon je ferais une émission de radio avec Christiane. Mais écoute, moi,
mais même à ça, je sais pas. Tu sais, je sais pas. J'essaie, mais j'ai hâte de voir le match en tant que tel. J'ai vraiment hâte de voir le 100% des gars s'ils vont mettre leur 100%. Surtout la météo à Miami, il annonçait 20% de pluie aujourd'hui, puis. J'ai regardé sur le météo média de Miami, mais il annonce
20% de pluie, ça peut être entre 11h et midi, l'avant-midi ou dans la nuit.
Mais Sylvain, moi, il l'a dit la semaine passée. Exactement. Hein, il mouille entre 4h et 5h, après ça, c'est fini.
Moi, j'y vais avec John Cena. Je vois pas comment la WWE peut faire gagner. Au même titre que Hogan n'aurait pas battu The Rock il y a 10 ans, je vois pas comment John Cena peut perdre ce combat. Et j'espère voir un combat vraiment là, qui va être exceptionnel, justement pour que Cena puisse continuer à traîner la compagnie sur ses épaules, parce qu'après Mania, The Rock sera pas là pour un petit bout, Triple H sera plus là aussi souvent, Undertaker sera pas là, Shawn Michaels sera pas là. Il va falloir qu'il compte sur un gars comme Cena, comme dans les dernières années.
Prince Albert continuer. Va prendre les rênes de la compagnie. On revient au retour. Vous écoutez le TOW Radio Show sur les ondes du 1570 AM, également le 1570.ca.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show. En compagnie de l'arbitre Patrice Maltais, ses collaborateurs Marc Blondin, Sylvain Grenier, Patrick Laprade et Patricia Malloy. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et sans frais, le 1-866-895-3142.
Les bars érotiques, le Garage de Mirabel et le Pink Paradise de Laval présentent l'événement TOW9, samedi le 5 mai au Centre Pierre Charbonneau. Billets disponibles sur towlutte.com ou encore à la billetterie au 3 Ben Ruvio à Montréal. Assistez au retour de Vader, Chris Masters et de la voix du Sud Jimmy Hart qui secondera Sylvain Grenier dans son combat face à Kevin Steen. 6 combats au programme, dont un premier test pour le champion Frankie the Mobster. C'est samedi le 5 mai. Soyez-y, mesdames, messieurs.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
La lutte TOW sous le soleil au Beach Club de Pointe-Calumet. Samedi le 14 juillet, on suit le chess, on sort les spinos et on assiste à un événement de lutte avec entre autres le légendaire Coco Beware et les meilleurs lutteurs du Québec. Le 14 juillet, le Beach Club de Pointe-Calumet se transforme en amphithéâtre plein air avec en primeur le premier concours Miss TOW. Surveillez les annonces à venir sur TOW Radio Show et sur la lutte Impact, diffusée sur RDS.
Vous êtes à 1570 Laval et au 1570.ca.
La lutte TOW est de retour à Montréal pour son événement TOW 9 samedi le 5 mai prochain au Centre Pierre Charbonneau. C'est le retour de la vraie lutte avec les meilleurs lutteurs québécois dont le champion TOW Frankie the Mobster. Également Sylvain Grenier, Drew Onyx, Kevin Steen, Darko, El Generico, Eric Mastrocola, Sexy Eddie, Sanson, Handsome GF et bien d'autres. TOW 9, Centre Pierre Charbonneau le 5 mai prochain. Informations et billets au towlutte.com. Soyez-y, mesdames, messieurs.
Bonjour, ici Richter Oz McGott, le meilleur gérant de la lutte au Québec, manager de Bugs Belmar, William Brady et Dosmosis. Vous écoutez Top of the World Radio. Ain't no rest for the wicked.
You think you know me?
On t'entend chanter en ondes, tu savais?
Oui, oui, je sais. C'était voulu.
Edge qui sera intronisé ce samedi au temple de la renommée de la WWE avant de passer au temps de la renommée. Pat, qu'est-ce qui se passe sur notre page TOW Radio Show?
Ben écoute, j'ai posé la question officiellement. Qui gagnera entre The Rock et John Cena dimanche lors de WrestleMania 28? Comment et où? Pourquoi? Et on a Georges Morillas qui nous répond. John Cena, The Rock vient tout simplement passer le flambeau, un peu ce que je disais tantôt. Un peu comme Hogan lui a passé le flambeau lors de WrestleMania 18 à Toronto.
Excellent, donc continuez à nous écrire sur la page. C'est beaucoup plus facile de textualiser que d'appeler, comme on peut le constater bien souvent. Avant de passer à notre continuité concernant le WrestleMania, faut juste que je fasse jouer le petit jingle ici. Tant donné que Marc n'est pas là ce soir, je vais prendre les rênes pour ce qui est de la TOW. TOW 9 qui sera présenté le 5 mai à 19h au Centre Pierre Charbonneau. Vous avez entendu les pubs? Tu l'as entendu, Pat?
J'ai entendu les pubs.
On va entendre du temps ce refrain.
Ça, la tune a été choisie par Sadie Top of the World, hein, c'est ça?
C'est tout, c'est la seule raison. Donc, le FanFest dans le hall d'entrée, c'est à 17h. Ouverture des portes à 18h. Le début du spectacle sera à 19h. La carte se lit comme suit. Donc, le combat, le tout premier Royal Gauntlet, qui va déterminer l'aspirant numéro 1 au championnat de la TOW. Les participants lors de ce Gauntlet seront ceux-ci. Faut pas que je les oublie parce que j'ai pas ma feuille. Donc, c'est Boogly, Genesis, Green Phantom, Billy Gibson. Nous aurons droit également à la première apparition. C'est quoi, 3-4 fois qu'il apparaît à l'événement de la TOW. On parle de Samson. Samson, qui nous a fait vraiment des beaux petits vidéoclips sur YouTube au cours des derniers mois. Ensuite de ça, nous allons avoir l'honorable présence de El Generico. Nous allons avoir également Pat Gainet. Et puis, il m'en manque un, là.
Darko.
Darko, exactement. Merci beaucoup, Pat. Une chance que t'es là. Darko, donc, seront les participants concernant le Royal Gauntlet. Match par équipe, Drew Onyx et Eric Mastrocola, qui fera ses débuts à la TOW, c'est-à-dire pour un show de la TOW. Il avait fait déjà les spot shows cet été. Donc, l'équipe s'appelle Mass Drewstruction, qui vont affronter la tabarnouche d'équipe. Non, je vais dire la tabarnak de team entre Mathieu Saint-Jacques et Thomas de Pipes Dubois, qui font une excellente équipe, soit dit en passant. On va avoir également droit à un match qui va opposer le style WWE avec Sylvain Grenier, qui sera accompagné de, du légendaire Mouth of the South Jimmy Hart, qui va affronter Kevin Steen, qui lui va nous offrir le style de la ROH.
Un match qui aurait dû arriver il y a longtemps. C'est un match qui je crois, en tout cas, pourrait faire la finale, évidemment, de n'importe quel show indépendant au Québec. Et c'est un match qui, moi, m'intéresse beaucoup. Si j'avais une promotion, Pat, ça ferait longtemps que... Ou si j'avais eu à faire un show, un spot show quelconque, c'est un match qui aurait eu lieu déjà, ça c'est officiel.
Chris Masters, qu'on connaît sous le nom de Master Lock, va affronter Sexy Eddie. Également, le Handsome Choker, le Legend Jobber, Handsome GF va affronter Vader. Et évidemment...
Steph. Comment? Ça va être stiff.
Ça va être stiff. J'espère qu'il est pas sensible, parce qu'en tout cas, il va avoir...
Si vous voulez rendre service à JF, amener de l'antiflogestine pour le lendemain, amener des masseuses, amener n'importe quoi qui va relaxer son corps, parce qu'il va en avoir besoin, je pense.
On va se faire brasser, JF. Puis la ceinture de champion de la TOW, le gagnant du Royal Gauntlet, qui affrontera Frankie the Mobster, qui est l'actuel champion de la TOW. Sans oublier, bien sûr, l'hommage posthume à Dino Bravo. Pour de plus amples renseignements, vous allez sur le site towlutte.com et puis vous allez voir l'endroit pour cliquer concernant les sièges qui sont toujours disponibles. Également, une petite carte du centre Pierre Charbonneau concernant la salle d'où aura la reine.
Ben oui, Centre-Pierre Charbonneau, métro Vio, pour ceux qui sont plus ou moins habitués avec la grande ville de Montréal.
Donc, on parlait d'Edge tout à l'heure en revenant de la pub. Edge qui sera introduit ce samedi au temps de la renommée de la WWE. Ce n'est pas le seul. Il y a Yokozuna qui va être introduit. On parle de Ron Simmons également. Mike Tyson, Mil Mascaras, que je ne connais pas, Pat va sûrement m'en parler tout à l'heure, et puis The Four Horsemen. D'ailleurs, Ric Flair qui fera son intronisation, sa deuxième, avec la gang des Four Horsemen. Edge qui sera introduit par Christian, les Four Horsemen qui seront introduits par Dusty Rhodes, il y a Mil Mascaras qui sera introduit par Alberto Del Rio, Mike Tyson par Triple H et Shawn Michaels, Ron Simmons qui sera introduit par JBL et Yokozuna qui sera introduit par les Usos. Je suis un peu surpris des Usos. Est-ce que c'est
pour
ça qu'ils...
En fait, c'est dans la même famille, Pat.
Je savais pas.
Oui, c'est la grosse famille des
Samoa.
Ouais, ben en fait de leur vrai nom de famille qui est Anoa'i.
OK.
A N O A apostrophe I qui est une des plus grandes familles de lutte qui a jamais eu les oncles et les pères de plusieurs de ces lutteurs là sont Sika et Afa qui ont lutté là dans les années 70-80 à la WWF dans le temps.
Afa, il était là avec les Headshrinkers, hein.
Non, ça c'était ça, Afa et Sika, en fait, ce sont les soit le père ou les oncles. Écoutez, les liens des fois là sont tellement beaucoup que j'en perds mon latin, mais ou mon samoin, mais il y a plusieurs de ces des membres de cette famille là qui ont d'ailleurs lutté à Montréal à leur tout début ou dans leur début, dont Greg Samu, que les fans des années 80 de lutte internationale se rappelleront, Tonga Kid aussi qui provient de cette famille là et même Yokozuna a lutté ici dans ces années-là, au moment où il s'appelait Kokina. Il a lutté dans les années 80. Ici, il a débuté à Montréal, ou en tout cas parmi ses premiers matchs. Alors, ça a été une grosse famille, et c'est pour ça que ce sont les Usos qui vont les introniser.
Grosse famille, Yokozuna. Je trouve que tu choisis mal tes mots.
Ben écoute, c'était pas voulu comme ça, mais effectivement.
Mais je suis surpris de scène de casser ma jeunesse. J'ai toujours pensé que Yokozuna était japonais.
Ah, pas
et
du
ceux
tout.
Qui se demandent Yokozuna, c'est quoi la signification de Yokozuna? Bien, c'est le titre suprême dans la lutte sumo. Donc quand tu es roi, quand tu es en haut de la montagne concernant les combats de sumo, bien tu as le titre de Yokozuna.
Ouais, vas-y, continue.
Voulais-tu dire de quoi?
Non, vas-y, continue.
Ron Simmons, écoute, j'étais en train de me dire que, d'après moi, je me suis pas ouvert au monde de la lutte quand j'étais jeune, parce que je savais pas que Ron Simmons avait eu un aussi long parcours à la lutte professionnelle, et puis j'étais très surpris de constater qu'il était un ancien champion poids lourd la WCW.
Oui, effectivement. Lui avait gagné le titre dans le temps. Il avait lutté aussi. Ben, il luttait sous son vrai nom, Ron Simmons, à ce moment-là. Il a lutté aussi en équipe longtemps avec Butch Reed, qui s'appelait tout simplement Doom et qui était managé dans le temps par Teddy Long, qu'on voit encore aujourd'hui avec la WWE. Par la suite, ben évidemment, quand il l'a transféré avec la WWE, il s'est appelé évidemment Farouk. Et je pense qu'on a un appel. Peut-être c'est quelqu'un qui veut juste venir faire un thème, parce que par la suite, dans les dernières années, c'est un peu ce qu'on a retenu. Les plus jeunes fans à l'écoute se rappellent sûrement de ces...
On va faire un test, voir. Allô?
Oui?
Est-ce que vous voulez parler au TOW Radio Show?
Non, c'est pour une information. Si vous avez des problèmes avec Internet, la radiodiffusion par Internet, ça, je peux pas vous écouter depuis... début de la soirée.
Écoute, c'est possible. Moi-même, j'ai de la misère à me connecter sur Internet en ce moment au poste, donc c'est possible qu'on ait de la difficulté.
Il y a trop de circulation parce que vous écoutez la seule émission francophone sur le monde de la lutte professionnelle.
Êtes-vous un fan de lutte, monsieur?
Alors, je suis un fan de CJLV. De toute façon, j'écoute pas mal tout ce qu'il y a, mais...
Allez-vous écouter WrestleMania dimanche?
Ah, peut-être.
Est-ce que vous êtes un fan de lutte, tout d'abord?
Ben, un peu, mais c'est, en général, j'aime tout ce qui passe à CJLV.
Alors, on a une question pour vous. Est-ce que ce sera The Rock qui va gagner ou John Cena? Si vous êtes un fan de l'émission, vous en avez souvent entendu parler. Qui va gagner, d'après vous?
Ben, moi, je pense que ça va serrer. Je ne sais pas du tout. Ça va être serré.
Un match nul.
Ben non, il n'y aura pas de match nul. C'est sûr qu'il va y avoir un gagnant, mais je ne sais pas.
C'est bon. Ben écoute, si on peut donner un truc concernant le site Internet, faites simplement un refresh, comme on dit, pesez sur F5, et puis possiblement que vous allez réussir à vous brancher. Ou bien synthoniser tout simplement le 1570 AM.
Oui, OK. Mais
on vous remercie de l'appel, monsieur, puis on va essayer de régler le problème Internet dès qu'on va pouvoir.
C'était une belle soirée.
Merci.
Bon, ben c'est le fun, hein? On a un auditeur. Yeah!
Comme dirait Tommy Armstrong présentement sur notre page Facebook, un random call.
Yes!
Un appel aléatoire comme ça ici, mais regardez, c'est tout ce que vous avez à faire. Appelez, on va vous répondre.
Ça a sonné.
On va vous jaser, puis écoutez... On va continuer par la suite, Patrice.
J'étais en train de me dire, bon, ben, d'après moi, Roger, il a fait un tirage de billets. Non, mais c'est le fun, ça fait du bien, ça. Ça fait, comme, il y en a certains qui, il y en a plusieurs qui disaient, oh, il contrôle les appels, il filtre les appels, et bien, c'est carrément faux.
Et écoute, Patrice, excuse-moi de t'interrompre. On a aussi un auditeur qui nous dit qu'il n'y a pas de problème à nous écouter sur le web, lui. Donc, peut-être, monsieur qui vient d'appeler, c'est peut-être un problème avec votre Internet à vous.
Mais tu vois, même ma mère, d'un fois, elle me dit que, ça coupe, mais elle est à Chibougamau.
Ouais,
à
Chibougamau, les lignes sont loin.
Donc, Ron Simmons, qui est apparu sous le nom de Farouk, avec son petit épée en plastique et puis son casque de gladiateur accompagné de Sonny. Je me crée l'image, tout d'un coup, je le vois arriver encore avec son petit épée, son bouclier. Quelle sorte de personnage qui personnifie au jeu?
Ben, en fait, avec la Nation of Domination, c'était vraiment
C'était avant la Nation, quand il est apparu à la WWE. Tu savais?
Non, excuse-moi, oui, je pensais que tu parlais de son personnage dans la Nation of Domination.
Non,
mais
je te parlais de Farouk étant...
Quand il est arrivé, ben écoute, je pense pas que ça passait à l'histoire, ce personnage-là, puis c'est peut-être pour ça que rapidement, on a essayé de le recadrer ailleurs dans... Et la Nation of Domination a été un clan qui a bien fonctionné à cette époque-là, et qui a d'ailleurs beaucoup servi à celui qui va faire la finale du WrestleMania de dimanche, c'est-à-dire The Rock, parce que c'est vraiment avec la Nation of Domination que le Rock a pu vraiment là éclore à la WWF, parce que son premier personnage, ben en fait Rocky Maivia tout court, avec son soude bleu à franges, c'était pas ce qu'il y avait de meilleur.
Non. Puis tu parles du Nation of Domination, cette année-là il y avait eu comme 4 clans, c'était excellent pour un Survivor Series. Vous aviez le clan des Noirs, les Latinos qui personnifiaient les gangs de rue, les motards. C'était ça pour les gangs à la WWF. Mike Tyson rapidement t'a donné que à chaque année ça prend une grosse vedette mainstream. Donc Mike Tyson a sa place évidemment.
Mais encore là, Mike Tyson, ça a été ça l'a servi beaucoup à la WWF, parce que bon, on se rappellera, il était arrivé en janvier 98. Il apparaît au Royal Rumble comme étant un gros fan de Steve Austin. Par la suite, on l'amène à Raw, et bon, ça avait suivi évidemment le Survivor Series de 97, le fameux Montreal Screwjob, et Vince McMahon commençait tranquillement à devenir un personnage heel, et c'est vraiment j'ai vu des images de ça récemment, où ce Steve Austin arrive et interrompre le petit party de Vince avait dans le ring pour introduire Mike Tyson et la face de Vince qui dit à Steve Austin qu'il a tout ruiné. You ruin it. Et écoute, c'est gravé.
On y croyait.
Et c'est suite beaucoup à ça que l'air attitude a vraiment pris son envol. Et écoute, le reste est de l'histoire.
Parle-moi de... Est-ce que je dis comme il faut 1000 mascaras?
Oui, 1000 mascaras. Écoute, 1000 mascaras vient lui aussi d'une grosse famille de lutteurs au Mexique, de son vrai nom, Aaron Rodriguez. Son frère est une des légendes au Mexique également, sous le nom de Dos Caras. Et le garçon de Dos Caras, donc le neveu de 1000 mascaras, a lutté sous le nom de Dos Caras Junior, et on le connaît maintenant sous le nom de Alberto Del Rio. Alors c'est pour ça que Del Rio va être celui qui va présenter son oncle au Temple de la Renommée, mais il y a aussi d'autres lutteurs. Il y a un autre de ses frères, Amil Mascaras, qui a lutté. Et puis, il y a aussi d'autres membres de la famille aussi qui ont lutté ou qui luttent encore au Mexique. Donc, grosse famille de lutte mexicaine. Et bon, comme la WWE veut de plus en plus rendre son temple à renommée internationale et ne se limite pas qu'à ceux qui ont lutté pour la WWE, ben on a profité de l'occasion d'avoir Alberto Del Rio dans l'alignement pour introduire 1000 mascaras, qui a lutté par contre beaucoup aux États-Unis, entre autres pour la IWA de Eddie Einhorn, qui avait essayé de rendre à la fin des années 70 de rendre une promotion locale un peu plus nationale, faire un peu ce que Vince a fait, mais bon, qui a pas connu le même succès. Mais 1000 mascaras a lutté là pendant des années aux États-Unis.
The Four Horsemen, évidemment, qui n'ont plus besoin de présentation. On sait tous qui sont les maîtres de cérémonie concernant les Four Horsemen. Excusez, Barry Windham, je regardais un match avec Ric Flair, le premier vraiment, le vraiment premier, voyons, je me comment je pourrais dire, le premier match qui a vraiment duré 60 minutes entre deux pugilistes à la télévision, entre Ric Flair et puis Windham. Et puis j'ai remarqué comment il était habillé, il avait les mêmes couleurs que Hulk Hogan. On dirait que c'est le gars qui, Dieu y en voulait, il a jamais réussi à aller au top des tops. Comme on
ben dit. Écoute, Windham provient lui aussi là, d'une
grosse famille.
De lutte, Blackjack Mulligan qui était son père, Windham qu'on avait vu à la WWE dans les années 80 avec Mike Rotundo alors qu'il luttait sous le nom d'équipe US Express qui ont échangé les titres par équipe entre autres avec Iron Sheik, Nikolai Volkov.
Mike Rotundo c'est IRS.
Exactement, tout à fait. Et puis Windham, écoute le ceux qu'on a choisi pour introniser parmi les Four Horsemen, c'est probablement l'édition qui a été la plus forte de toutes les éditions des Four Horsemen, c'est-à-dire Arn Anderson, Tully Blanchard, qui ensemble avaient aussi lutté par la suite à la WWF sous le nom des Brainbusters.
Les Brainbusters, oui.
Managé par Bobby Heenan, et puis avec Windham et Flair, managé par J.J. Dillon. C'était vraiment, là, je crois, la meilleure édition des Four Horsemen qui avait originalement, avant Barry Windham, c'était Ole Anderson qui était là. Et bon, il y en a eu d'autres par la suite, entre autres Paul Roma qui probablement est le pire Four Horsemen de tous les temps. Et dans les dernières années de la WCW, on avait fait une réincarnation du groupe avec Mondo McMichael, Steve McMichael, Chris Benoit
et
Dean Malenko, effectivement.
Tu parles de comment c'est quoi son nom lui qui t'a dit là, que c'était le pire membre?
Paul Roma.
Il a pas fait une équipe avec Hercules à un moment donné?
Il a fait une équipe avec Hercules? Oui, je crois que... Oui, je pense que c'est
ouais,
oui.
Hein.
Il avait fait une équipe aussi avec Jim Powers, qui s'appelait les Young Stallions. Ceux qui ont suivi la lutte de la WWF dans les années 80, c'était deux jeunes qu'on avait mis en équipe. Mais par la suite, évidemment, oui, il avait tourné heel. Et je pense qu'il avait fait équipe avec Hercules, où il était dans le même clan, quelque chose.
Je me souviens plus. Et puis, on boucle la boucle avec Edge, qui sera introduit par Christian Edge, qui est très jeune hein, pour rentrer dans le temple de la renommée, mais quand même, qui, si je fais une rétrospective de sa carrière, je me rappelle, c'est en 98, 97 qu'il a commencé.
Il a commencé avec Christian quand il se faisait appeler là, de... je lis le bout de la langue, The Brood avec Gangrel.
Gangrel, qui était la gang à Undertaker.
Effectivement, c'est ça, il faisait partie à un moment donné aussi du Corporate Ministry et tout ça, et par la suite, bon, à la fin, au début des années 2000, les TLC matchs avec les Dudleys et les Hardys, je pense, ont mis entre autres Edge et Christian sur la map, et par la suite, Edge est devenu, bon, le lutteur le plus couronné de l'histoire de la WWE, malgré le fait qu'il y a eu des courts règnes. Il a quand même remporté plusieurs titres et qui ne se rappelle pas évidemment de son temps avec Lita qui l'avait vraiment là, propulsé au sommet de la WWE à ce moment-là. C'était vraiment là...
Lita qui était hier backstage à Raw, qui visitait ses amis parce qu'elle reste à Atlanta, tout comme DDP, Diamond Dallas Page.
D'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller sur notre page Facebook, notre collaborateur évidemment Bertrand Hébert, là, qui met les vidéos YouTube plus vite que son ombre, a mis plusieurs vidéos là entre autres là d'à peu près tous les nominés au Temple de la Renommée qu'on a nommés, les Four Horsemen, Ron Simmons, Edge, écoute, il nous dit même exactement ton équipe de Paul Roma et d'Hercules, c'était Power and Glory.
Power and Glory, voilà. Ils ont pas resté longtemps.
Non, mais c'est là tu vois avec le nom, je m'en souviens encore plus. Donc vous allez voir aussi une vidéo de Ron Simmons, Farouk à ses débuts comme tu en parlais. Donc sur notre page TOW Radio Show, vous allez pouvoir voir tous ces vidéos YouTube là.
Au retour, on fait le tour des combats annoncés jusqu'à maintenant parce que ça peut toujours changer. On parle bien sûr de WrestleMania 28. Vous écoutez le TOW Radio Show sur les ondes du 1570 AM, également le 1570.ca.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show en compagnie de l'arbitre Patrice Maltais, ses collaborateurs Marc Blondin, Sylvain Grenier, Patrick Laprade et Patricia Malloy. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et sans frais, le 1-866-895-3000. 3142.
Les bars érotiques, le Garage de Mirabel et le Pink Paradise de Laval présentent l'événement TOW9, samedi le 5 mai au Centre Pierre Charbonneau. Billets disponibles sur towlutte.com ou encore à la billetterie au 3000 rue Viau à Montréal. Assistez au retour de Vader, Chris Masters et de la producer Jimmy Hart qui secondera Sylvain Grenier dans son combat face à Kevin Steen. 6 combats au programme, dont un premier test pour le champion Frankie the Mobster. C'est samedi le 5 mai. Soyez-y, mesdames, messieurs.
Ici Edith Cochran. Vous cherchez des moyens de réduire votre consommation d'énergie? Mettez vos électroménagers à contribution. Éteignez les appareils électroniques qui servent peu. Gardez le frigo en bon état. Vérifiez l'étanchéité de la porte et nettoyez les serpentins. Lavez vos vêtements à l'eau froide et suspendez-les pour les faire sécher. Abandonnez le cycle de séchage avec chaleur de votre lave-vaisselle. Et si vous devez remplacer vos électroménagers, choisissez ceux portant la certification Énergie Star. Parce que chaque petit geste est important.
Un message de la Fondation québécoise en environnement.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
La lutte TOW est de retour à Montréal pour son événement TOW 9, samedi le 5 mai prochain au Centre Pierre Charbonneau. C'est le retour de la vraie lutte avec les vedettes américaines Chris Masters, Jimmy Hart, le gérant le plus coloré des années 80 et Vader. 6 combats en plus d'un hommage posthume à Dino Bravo. TOW9, Saint-Pierre-Charbonneau, le 5 mai prochain, dès 19h. Informations et billets au towlutte.com. Soyez-y, mesdames, messieurs.
Vous êtes à 1570 Laval et au 1570.ca.
Hey gang, this is Mickey James of TNA Impact Wrestling. Get all of the latest pro wrestling scoop by listening to TOW Radio every Tuesday night at 9 p.m. on 1570 AM.
Il mord la bouche du French que le gars paye,
là. Ouais. Je pense qu'à Miami, ça va beaucoup crier John Cena S avec plein d'étoiles au bout, là. Un mot que je veux m'abstenir de dire ici, mais.
Pourquoi?
Ben, je pourrais le dire, en fait.
Gina Sox.
J'ai-tu le droit? J'ai le droit de dire ça. John Cena Sox. Je pense que ça va crier beaucoup ça à Miami, par la foule qui va être certainement très, partisane à The Rock.
Gina Sus, pas Gina. John Sus, ça, je vais dire. J'aime beaucoup cette chanson-là. Ben, j'aime beaucoup, on va dire. Juste les 30 premières secondes.
Tu savais, Patrice, que John Cena, à ce moment-là, était sur le point de se faire congédier de la WWF, de la WWE. Triple H n'était aucunement un fan de Cena. Et finalement, écoute, Stéphanie a permis à Cena de lui donner une deuxième chance. Cena est arrivé avec ses propres lyrics de rap, avec, les toujours le linge plus sport.
Il rappait dans l'autobus de tournée, puis Stéphanie l'a entendu. Justement.
Exactement, et puis grâce à ça, ben écoute, il est encore là aujourd'hui, et je te dirais que la WWE doit pas le regretter.
On va écouter, voir. Ça a raccroché.
Ben écoute, pendant ce temps-là, sur notre page Facebook, il y a Rodrigo qui nous dit que quand Ron Simmons a gagné la ceinture de la WCW, ça jouait à RDS en français avec justement Marc Blondin et le magnifique Richard Charland, et il considère que c'était priceless d'avoir ça à RDS. On a aussi, on a Tommy Armstrong qui nous dit que Paul Roma ressemble tellement à Chris Masters. Je dois avouer qu'il a tout à fait raison. Et il y a Serge Coutu plutôt, excusez-moi, qui dit que si vous appelez et vous voulez parler à Pat Laprade, il faut faire le 1. Alors peut-être que c'est ce que la personne devrait faire.
On va laisser voir. TOW Radio, allô?
Oui, bonsoir les gars, les copains, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ouais, pas pire. Pat, c'est Patrick Bossé qui t'a parlé à Femme Fatale.
Hey, oui, Pat, je t'ai salué d'ailleurs lors de l'émission. Je savais plus ton nom de famille, mais j'ai rempli ma promesse, je t'ai dit salut.
Mais je te remercie beaucoup, ça m'a permis d'avoir mon 5 secondes de gloire à la radio.
Ben là, tu vois, on va augmenter ton moment glorifique parce qu'on va te demander quelles sont tes prédictions de WrestleMania concernant le match entre The Rock et John Cena.
John Cena va remporter le match.
Pourquoi John Cena?
Parce que, comme Patrick Laprade a dit tantôt, c'est parce que The Rock va passer le flambeau à John Cena.
Ah, OK. Est-ce qu'il y a un autre match que tu veux voir ou bien tu vas regarder WrestleMania juste pour Cena et The Rock?
Non, moi je vais regarder WrestleMania pour tous les matchs.
Pour tous les matchs. Ouais. Quel est ton deuxième préféré?
Mon deuxième préféré, honnêtement, j'ai pas de préféré dans la lutte, là, c'est parce qu'ils sont très bons.
Non, mais je veux dire, dans la carte, est-ce que t'anticipes le Hell in the Cell entre Triple H et Undertaker?
Oui.
Ou Sheamus contre Daniel Bryan?
Plutôt le Hell in the Cell contre Triple H Undertaker, celui-là m'intéresse beaucoup.
Donc, ça reste à voir. Merci beaucoup, Pat, pour ton appel.
Merci beaucoup.
Bye.
Au revoir. Patrice,
justement, le Hell in the Cell, où ça a été buildé hier?
Exactement.
Oui, on a vu des images du Undertaker. On a vu, bon, des certaines rétrospectives. Mais écoute, moi aussi, je considère que c'est le deuxième match le plus important sur cette carte-là. C'est le 20, c'est possiblement ce qui va devenir la 20e, possiblement. Très fortement, ce qui va devenir la 20e victoire de l'Undertaker. Ça l'inclut trois des plus grosses vedettes de la compagnie et aucun des trois n'était présent live hier au Go Home Show. Ça, c'est ce qui m'a probablement le plus abasourdi, à part la faiblesse du build-up de Rock Cena. Écoute, justement, sur notre page Facebook, à la question qui gagnera entre The Rock et Cena, écoute, on a des avis partagés, je te dirais. On parle de Rock. Certains pensent que The Rock va gagner pour un combat revanche l'an prochain au New Jersey, parce qu'on sait que The Rock a déjà dit qu'il serait présent l'an prochain à WrestleMania 29. On parle aussi que l'ego du Rock va l'emporter sur le mouton Cena. Et d'autres pensent que The Miz va faire une intervention dans le match pour un peu se venger de ce qui lui était arrivé l'an dernier. Donc, ça reste à voir.
Il y a beaucoup de rumeurs aujourd'hui qui sont apparues, dont Brock Lesnar qui aurait confié à quelqu'un dans son entourage qui serait prêt à faire un match à WrestleMania, soit contre Steve Austin, soit contre The Undertaker. Et puis, il y a CM Punk qui a écrit sur Twitter un message à Steve Austin, Son 29 ou 29 Son. Et puis, Chris Jericho qui s'est empressé de rétorquer en disant si t'es encore debout l'année prochaine. Et puis, je suis très, très, très content de constater que Mick Foley ne fera pas partie de l'équipe à Teddy Long.
Pourquoi?
Parce que Mick Foley n'a plus sa place dans la lutte. Parce que là, écoute, il est fini. Il sert plus à rien.
Mais dis-toi que le match va être un match beaucoup axé sur la comédie.
La comédie, exactement.
Donc Mick Foley aurait eu sa place, je pense, dans ce type de match-là. Par contre, bon, on a choisi Booker T, qui est pas un mauvais choix. C'est sûr que côté lutte va en donner beaucoup plus que Mick Foley.
Sais-tu ce que j'ai fait le saut hier quand Raw a débuté, quand j'ai vu que CM Punk allait affronter Christian, j'ai eu deux pensées. La première, je me suis dit, ils feront pas perdre le champion face à Christian. Puis c'est plate pour Christian qui fait son comeback à Raw puis qui va perdre.
Ouais.
Mais non, ils m'ont surpris en faisant l'angle de la blessure.
Pour le sortir
de WrestleMania. Et puis ouais, la cloche n'a pas sonné, donc il a pas perdu, personne n'a gagné. J'étais quand même content. Tu sais, j'aime CM Punk puis j'aime Christian et puis je trouvais ça de valeur en me disant ils feront pas perdre Christian en commençant comme ça. Ensuite,
moi ce qui m'a déçu, Patrice, de CM Punk, pendant qu'on en parle, c'est la promo de Chris Jericho. Moi, j'étais, j'étais de ceux qui croyaient que, bon, dans les dernières semaines, quand Jericho s'attaquait au père de Cena, puis, bon, à la sœur au père de Cena, au père de Punk, à la sœur de Punk, c'était, je trouvais ça l'amenait quelque chose de plus personnel, une rivalité un peu plus personnelle qui va amener une certaine rage à CM Punk, rage qu'on a vu hier, justement, quand il a blessé Christian, mais je trouve que hier, ce que Jericho a dit de Punk et qu'il l'a fait complètement flipper, je trouve que c'est pas actuel. Non, combien de personnes sont nées avant le mariage de leurs parents? Combien de personnes sont nées sans que les parents soient mariés? Parce que, à la base, un bâtard, comme Jericho a appelé CM Punk, un bâtard, c'est quelqu'un qui avait été, bon, qui était né sans que les parents soient mariés, point. On parlait pas avant ou après, c'était sans que les parents soient mariés. Et c'est tellement pas actuel en 2012 de faire ce genre de commentaires-là. J'aurais aimé plus qu'il continue sur l'angle, bon, tu sais, tu dis haut et fort que tu prends pas d'alcool, pas de drogue, straight edge, et toute ta famille est complètement là-dedans. Et j'aurais aimé mieux qu'il continue là-dedans, ouais, que qu'il s'attaque à cet aspect-là de CM Punk, qui plus tard, en entrevue dans le show, dit simplement que Jericho est un menteur et c'est jamais arrivé. Je veux dire, OK, au moins, joue avec, au moins, si c'est jamais arrivé, si c'est un menteur, pourquoi t'as pogné les nerfs tant que ça face à Christian quelques minutes avant?
On va y revenir.
Ça fait partie du gomme show que qu'on a pas aimé, je pense.
TOW Radio Show, bonsoir.
Oui, les gars, c'est encore moi, Patrick, à l'appareil.
Correct, Pat, vas-y, ta dernière chance.
Oui, c'est pas sérieux, pour savoir, est-ce que l'émission est en reprise le mercredi matin?
Ça va être en diffusant en podcast sur notre page TOW Radio Show sur Facebook.
En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est revenir en studio le mercredi matin, puis de répéter les mêmes paroles au même moment, mais ça devient un petit peu difficile.
Bon, ben, Pat n'aura pas ses cartes de clown, donc voilà, Patrick, tu auras ça en rediffusion sur Facebook, comme c'est l'habitude.
Pas de problème.
Merci beaucoup.
Merci, Patrick.
Bye. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, moi, je trouve que ce qui m'a surpris sur Chris Jericho, ça a été qu'il n'a pas été présent pendant deux rounds d'affilée. Mm-hmm. Il y a pas eu de build-up, et puis ils ont enregistré les matchs de SmackDown qui seront diffusés vendredi, et puis Chris Jericho a eu un match justement
face à Kofi Kingston, je crois, le match qu'ils ont fait dans les house shows là, depuis plusieurs semaines. Effectivement, ça aussi, ça m'a surpris. Ce qui m'a surpris aussi des enregistrements de SmackDown, bon, écoutez, ceux qui ne veulent pas avoir les spoilers, veuillez peut-être moins porter attention, mais en fait, DX est là à la toute fin, et Triple H et Shawn Michaels ensemble sous la musique de DX, et je me dis, bon, je trouve ça un peu bizarre qu'on les fasse sortir ensemble dans l'unité DX.
Mais est-ce que ça sera télédiffusé? C'est plutôt ça qu'on se demande. Est-ce qu'ils ont été présents comme ceux qui étaient présents lors de l'événement de Raw hier? On sait tous que The Miz a eu un rock bottom pour une deuxième semaine consécutive. Hors d'onde, justement, puis peut-être que ça va apporter justement une suite pour le combat de ce dimanche. Dans les autres combats, j'en ai parlé tout à l'heure, Big Show face à Cody Rhodes, combat qui était quand même bâti de semaine en semaine, qui est un des seuls qui était d'actualité concernant la carte de WrestleMania. Donc ça reste à voir qui gagnera entre Big Show, Cody Rhodes. Pauvre diva, je trouve ça de valeur pour la lutte féminine. Kelly Kelly avec une animatrice de télé qui s'est cassé les côtes en se pratiquant pour Dancing with the Stars.
Ouais, mais qui semble, en tout cas, pour l'instant, elle a pas dit qu'elle serait pas à WrestleMania. Je crois que le match est toujours bon pour Mania parce qu'elle continue avec Dancing with the Stars également. Donc, mais j'imagine qu'elle va y aller. Ben de toute façon, je pense pas que ce soit qu'on lui demande de faire de la une grosse bagarre, mais quand même, j'imagine qu'elle va y aller un peu plus mollo.
Beth Phoenix avec avec elle qui fait un moonsault, Eve Torres, que je comprends pas non plus qu'est-ce qu'elle fait là. Je pense qu'elle a rongé son frein pendant combien de temps? 2 ans, je pense, Eve Torres, et puis rendu là.
Ben écoute, moi j'haïs pas le personnage de Eve Torres en heel.
Ça a été trop long avant que ça se fasse, tu comprends-tu? Il me semble qu'elle avait pas rapport en tant que danseuse avec R-Truth qui faisait sa menuse de claque de basketball avec R-Truth. Ensuite, la sidekick à tout le monde, là. C'est ça qu'elle faisait, tu sais. Et là, non, tu sais, comme, c'est assez, je l'ai assez vu. Ensuite, le match que je n'ai aucun intérêt, c'est dommage parce que c'est à cause de la blessure à Wade Barrett. Nous allons devoir apporter notre oreiller parce que Randy Orton sera en action.
T'aimes pas Randy Orton, Pat?
Je déteste Randy Orton. Quand je te dis, non, je suis pas capable, je ne comprends pas l'hystérie dans les arénas face à Randy Orton. Kane qui roule sa bosse, et puis ensuite de ça dans la catégorie de OK, je vais y aller. Mark Henry qui sera encore là, qui fera partie de l'équipe Laurinaitis.
Il y a Daniel Bryan aussi contre Sheamus.
Ouais, attends, j'ai pas fini. Je voulais parler de ce combat qu'on parlait de comédie tout à l'heure quand on parlait de Mick Foley, puis on a tombé avec CM Punk puis Jericho. David Hudson, Otunga. Drew McIntyre qui est encore là. Un acteur de soutien, un figurant à la lutte. Mark Henry, The Miz qui s'est ajouté. Ensuite, Jack Swagger et Dolph Ziggler qui seront accompagnés de Vicky Guerrero ainsi que Brie Bella contre Santino Marella, Zack Ryder, R-Truth, Kofi Kingston, The Great Khali ainsi que Booker T qui s'est ajouté hier qui vont accompagner Teddy Long, Axana ainsi que Nikki Bella. Je trouve ça drôle la chicane entre les jumelles. Je trouve ça bon. Lequel des deux qui sort avec Daniel Bryan? C'est-tu Nikki ou...
C'est Brie.
Brie.
Oui. D'ailleurs, ils sont censés faire justement un angle
avec AJ
et Brie Bella qui va...
Et puis, le match post-publicitaire, Sheamus contre Daniel Bryan. J'imagine que Daniel Bryan va continuer
avec le Raw d'hier, j'en doute. D'après moi, hier le finish du match donne plutôt l'impression que Sheamus va avoir sa revanche face à Bryan lors de Mania, surtout si on risque de finir le show peut-être plus heel avec une victoire de Cena, mais ça prendrait peut-être une grosse victoire babyface avec Sheamus face à Daniel Bryan. Mais je t'écoute parler, Pat. Il y a plusieurs matchs popcorn, plusieurs matchs pause publicitaire, pause pipi. Je te trouve un peu sévère par rapport à la carte.
Comme je t'ai dit hier en écoutant Raw, je me disais, est-ce qu'ils savent qu'il y a des gens vont payer près de $50 à la maison pour voir ce ramassis de bouillie là, parce que je n'ai aucune confiance entre Kane et Randy Orton. Je trouve ça platonique parce qu'il y a tellement de talents qui sont mis de côté. Le combat par équipe, juste le championnat par équipe d'hier, justement, on parlait des les cousins là,
les Usos.
Ouais, qui ont mangé une volée en 30 secondes face à Big Show. Je trouvais ça de valeur. Il y aura pas de combat par équipe.
Ça te dit à quel point les titres par équipe de la WWE présentement n'ont aucune valeur.
Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai vu qui m'a fait gratter la tête? Ça a été, veux-tu, je l'ai oublié tellement que c'était pas important.
Mais écoute, moi, je regarde la carte de WrestleMania et je me dis, bon, il y a la finale qui m'intéresse évidemment. Le Hell in a Cell m'intéresse grandement. CM Punk Chris Jericho, c'est un match que je veux voir.
C'est le match qui va ouvrir d'ailleurs WrestleMania.
Il y a selon les dernières nouvelles, ouais. C'était le match, OK. Sheamus et Daniel Bryan. Moi, c'est un match que je pense que les gars vont se donner, puis c'est un match qui pourrait surprendre étant donné que l'an dernier, ils avaient été recédulés en dark match à la toute dernière minute. Je pense que cette fois-ci, ils vont prouver qu'ils ont leur place sur le show. Ce qui me déçoit le plus peut-être de cette carte là, c'est de voir le talent qu'on retrouve dans le Team Johnny versus Team Teddy. Je pense qu'un Dolph Ziggler aurait mérité un meilleur sort.
Justement, c'est l'affaire de Wade Barrett qui était blessé parce qu'il devait avoir un Money in the Bank match, puis ça a été scrappé, donc il y a 5 participants qui devaient faire partie de ce match-là, qui sont sûrement intégrés.
Il aurait pu avoir un Money in the Bank quand même. Je sais qu'il y a un pay-per-view maintenant, Money in the Bank, dont on veut aussi se garder de la place pour là. Mais je pense qu'un Dolph Ziggler, de Miz, quand il faisait sa promo il y a deux semaines, disant que c'était la plus grande chute depuis King Kong Bundy, à quelque part, il n'y a pas tout à fait tort dans le discours qu'il donne, dans le sens que l'année passée, il faisait quand même la finale de WrestleMania.
Oh,
et là, on le retrouve dans un match qui a pas une grosse signification, parce que bon, à part d'être un match de comédie, de savoir qui va diriger Raw et SmackDown, et on sait maintenant, tu sais, que s'ils veulent, ils peuvent changer ça à Raw ou à SmackDown ou au prochain repêchage.
J'ai oublié les acheteurs concernant les derniers pay-per-view de la WWE qui sont en pente descendante, parce que justement, The Miz, qui est une raison pour laquelle les pay-per-view ne se vendent tout simplement pas, Survivor Series n'a pas battu de record malgré l'apparition à The Rock.
Ouais, mais Survivor Series a quand même mieux fait que le Survivor Series de l'année précédente. Cependant, je pense que The Miz et R-Truth étaient pas les bons adversaires dans ce match-là. Okay? C'était pas des heels qui étaient, à mon avis, assez forts. Mais plus que ça, je pense que The Rock et Cena n'auraient pas dû faire équipe. Je pense que l'erreur principale était là. J'aurais eu beaucoup plus d'intérêt d'avoir un Team Rock versus Team Cena dans un concept original, le vieux concept du Survivor Series, un 5 contre 5 élimination. Je pense que j'aurais eu plus d'intérêt à voir ça que de voir ce qui s'est passé, et The Rock et Cena qui font équipe parce que ils sont amis sur Twitter, où il y avait les gens sur Twitter voulaient qu'ils fassent équipe.
Ça n'a pas été fort. On va s'arrêter parce qu'au retour, on a notre leçon d'histoire hebdomadaire avec Bertrand Hébert. Vous écoutez le TOW Radio Show sur les ondes du 1570 AM, également le 1570.ca. Continuez à répondre, s'il vous plaît, à nos deux questions sondages de ce soir, qui est sur la page TOW Radio Show sur Facebook. La première question est: comment écoutez-vous l'émission, soit au 1570 AM, le 1570.ca, ou bien en rediffusion podcast? Et également la deuxième question: qui sera le vainqueur entre John Cena et The Rock à WrestleMania ce dimanche? Faut que je me fasse un X dans la main parce qu'il faut que je parle de la présentation justement au retour de la pause.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show, en compagnie de l'arbitre Patrice Maltais, ses collaborateurs Marc Blondin, Sylvain Grenier, Patrick Laprade et Patricia Malloy. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et sans frais, le 1-866-895-3142.